les candidats à l'exploitation des blocs pétroliers ont jusqu'à fin janvier 2023 pour présenter leur dossier. Anastasie Tudiech, Kinshasa, pour VOA Afrique.
Merci beaucoup Anastasie. Place maintenant à nos invités pour plus d'éclairage à Kolwezi en RDC, Tosi Panupanu. Vous êtes expert en développement durable et finances climatiques. Vous étiez, je le rappelle, le négociateur de la RDC lors de la COP26 de Glasgow en 2021. À Ouagadougou, Innocent Belemtougri, vous êtes le PDG du cabinet Semika, spécialisé dans la promotion et le développement du secteur des mines, des carrières, du pétrole et de l'énergie en Afrique. Et à Libreville, Marc-Ona Essangui, secrétaire exécutif de Brain Forest Gabon, lauréat du prix Goldman pour l'environnement, également militant des droits humains, membre de Tournons la page. Alors je démarre avec vous, Tosi. Parmi les zones qui font l'objet de débats, 9 sont dans la cuvette centrale, riche en tourbières, en biodiversité, qui contient selon certaines estimations environ 30 milliards de tonnes de carbone. Alors, est-ce que vous comprenez les inquiétudes des défenseurs de l'environnement ?
Oui, absolument. Les inquiétudes qui ont été émises sont tout à fait légitimes. Mais je voudrais que nous allions dans cette conversation de manière objective, de manière informée, de manière scientifique. Et j'ai l'impression que certains amis de la société civile, malheureusement, ont été dans des effets d'annonce catastrophiques, ont été dans des déclarations qui malheureusement ne reflètent pas la vérité. Il faut comprendre que la RDC est un pays continent qui a un défi en termes d'aménagement du territoire, et il y a en ce moment plusieurs cadastres qui se superposent entre eux, parce que différents secteurs de la vie nationale sont en compétition pour l'occupation de l'espace. Et donc il y a un cadastre minier qui est superposé à un cadastre foncier, qui est superposé à un cadastre agricole, qui est superposé à un cadastre forestier, et il y a le système des blocs pétroliers. Et il peut arriver effectivement qu'il y ait des chevauchements. Alors aujourd'hui, il faut voir où y a-t-il chevauchement et comment régler ce problème de chevauchement. Et lorsqu'on a constaté qu'il y avait quelques chevauchements avec quelques parcs nationaux et quelques aires protégées, il faut qu'on se réfère à la loi congolaise. Et celle qui porte sur la conservation de la nature est très claire. Dans les aires protégées, on ne peut pas faire d'exploitation de pétrole. Et donc, lorsqu'il y aura un bloc pétrolier qui sera alloué à un soumissionnaire, il saura que ce bloc pétrolier étant important, certains couvre jusqu'à 25 000 km², il saura que sur ce bloc pétrolier, il ne peut pas aller dans l'air protégé s'il y a effectivement chevauchement.
D'accord. Alors, Innocent, je vais juste donner un exemple. En mars 2022, à Abuja, le ministre nigérian du pétrole disait, je le cite, « L'Afrique ne nie pas la nécessité de transiter vers les carburants renouvelables, mais, dit-il, ironise-t-il un peu, laissez-nous profiter un peu de nos ressources. » Est-ce que c'est en ces termes qu'il faudrait voir la question de la transition énergétique, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique ?
Merci beaucoup. La réflexion aujourd'hui est la suivante. Les intérêts de l'Afrique, manifestement, ne sont pas forcément les mêmes intérêts que le reste du monde. Ça, il faut l'admettre. Aujourd'hui, les Africains ont l'intelligence et les moyens de produire divers types d'énergie si d'aventure des barrières inutiles ne leur sont pas opposées. Et il faut noter que l'Afrique aujourd'hui a besoin en termes de priorité d'énergie abordable. Il n'est plus admissible avec toutes les sources d'énergie que nous avons sur le continent qu'il y ait des parties de l'Afrique qui sont encore dans l'obscurité. Donc nous avons besoin d'une énergie abordable, nous avons besoin d'une énergie fiable et enfin d'une énergie propre pour aller vers la transition énergétique. Pendant qu'au même moment, le reste du monde a comme priorité numéro un une énergie propre, ensuite une énergie fiable et enfin une énergie abordable. Donc vous voyez souvent que les intérêts de l'Afrique ne sont pas toujours au même instant les mêmes intérêts que le reste du monde. Donc véritablement, le ministre nigérian a raison de dire que l'Afrique doit pouvoir bénéficier de toutes ses ressources pour son bénéfice et pour son développement.
D'accord. Alors Marc, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut demander à un pays, par exemple la RDC, de renoncer à un potentiel de 22 milliards de barils de pétrole face aux urgences liées au développement de ce pays ou dans d'autres pays également qu'on peut citer? Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas exploiter ces ressources qui sont à la disposition de ces pays?
Alors, merci. Je voudrais d'abord préciser un élément que notre ami du Congo a soulevé, c'est-à-dire la superposition des différents éléments. Je pense que l'erreur que beaucoup de pays ont commise au départ dans leur politique de préservation, c'est de ne pas avoir mené au préalable des études géologiques capables d'identifier le contenu des sous-sols qui sont retenus pour la préservation. Le cas du Congo RDC est reproductible au Gabon, par exemple. Parce que cette superposition, effectivement, pose problème. Quand vous vous retrouvez dans un parc national avec une richesse, que prévoit la loi ? Au Congo, par exemple, on prévoit de ne pas exploiter. Mais au Gabon, on prévoit le déclassement, il faut déclasser le site. Ça, c'est le 1. De deux, je pense qu'avec les technologies nouvelles en termes d'exploitation de nos ressources, nous sommes capables aujourd'hui, avec les bonnes études d'impact environnemental réalisées, avec la bonne technologie, on est capable d'exploiter ces ressources naturelles de manière propre. Pas à 100% propre, c'est-à-dire on est capable d'atténuer les impacts environnementaux qui sont produits dans le cadre de cette exploitation. Un pays comme et quelqu'un l'a dit, nous avons besoin de nos ressources, il faut les exploiter, mais aujourd'hui on ne peut plus les exploiter comme dans les années 60. On a la technologie, on a des experts capables d'orienter une exploitation rationnelle et propre.
D'accord. Et aussi, peut-être que vous pouvez réagir à cela, mais en 2050, la population africaine va doubler à 2,5 milliards d'habitants. Et le continent fait déjà face à des besoins urgents de développement qui doit aussi donc se préparer à ce boom démographique. Comment répondre aux exigences de développement tout en préservant l'écosystème, surtout qu'il y a aussi des populations qui dépendent de ces forêts?
Alors, moi, je voudrais tout simplement rappeler une chose que nous vivons depuis des années. L'exploitation des ressources en Afrique ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que un pays comme le Gabon, République démocratique du Congo, est-ce que ces pays sont pauvres parce que nous n'avons pas exploité nos ressources? Non. Nous sommes face à des problématiques de gouvernance qui ne nous permettent pas d'aller au-delà de ce qu'on a toujours vécu. Au lieu d'observer l'exploitation de ces ressources comme une sorte de panacée pour le développement, il faut surtout mettre l'accent sur la gouvernance dans l'exploitation de ces ressources.
D'accord. Toi aussi?
Oui, donc moi, en tout cas, je ferai un constat qui est objectif. 75% de la population congolaise, et nous sommes 100 millions d'habitants, vit avec moins de 1,9 $ par jour. Donc il y a une grande pauvreté. Et pour moi, je pense que la suite de la pauvreté, c'est simplement l'affaiblissement de la capacité humaine et la mort. Et je ne veux pas que, à la fin, nous ayons un pays qui soit un gage de méga biodiversité pour permettre du tourisme de luxe de se faire chez nous. Les gens viennent voir les gorilles en dépensant 1 000 $ par jour. Et entre-temps, il n'y a plus de Congolais parce qu'ils sont tous morts. Donc le développement durable, il a trois dimensions, la dimension environnementale certes, mais également la dimension économique et sociale. Et donc il faut qu'on arrive à un bon équilibre entre ces trois éléments, et je crois que cette discussion doit se mener dans ce cadre-là.
Mais il y a des populations qui aussi dépendent de cet écosystème.
Oui, effectivement. Mais aujourd'hui, en RDC, en fait, nous avons 155 millions d'hectares et chaque année, nous perdons 0,3% de cette superficie à cause de la pauvreté. Parce que les gens sont pauvres, ils font de l'agriculture itinérante sur brûlis qui détruit cette forêt, ils ont des besoins énergétiques. Seulement 9% des 100 millions de Congolais ont accès à l'électricité et donc 91% de 100 millions de personnes mettre la pression sur cette forêt. Il y a des problèmes de démographie, il y a des problèmes de foncier, il y a des problèmes d'aménagement du territoire. Et donc aujourd'hui, cette pauvreté détruit la forêt. Il faut gérer les moteurs de cette déforestation. Et justement, de manière paradoxale, c'est la manne pétrolière qui pourrait venir de cet appel d'offres sur les blocs pétroliers qui pourrait aider la RDC à avoir une action environnementale plus vertueuse et protéger sa forêt, ainsi que les populations.
Absolument. Alors, Innocent, justement, comment est-ce que vous conseillez les compagnies qui veulent s'implanter en Afrique, comment cette dimension environnementale est prise en compte?
Déjà, il faut saluer la montée en puissance de la qualité des ressources humaines africaines dans la gestion des ressources naturelles en général. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'Africains qui savent comment fonctionne l'industrie minière, comment fonctionne l'industrie pétrolière, et qui de plus en plus occupent des postes, de hauts postes de responsabilité. Il y a quelques temps en arrière, tout le savoir venait de l'extérieur du continent. Aujourd'hui, les Africains maîtrisent quelque peu l'exploitation de ces ressources naturelles de manière responsable et durable. Mais quand vous observez un peu les difficultés de développement de l'ensemble du continent, à chaque fois, à chaque moment que les Africains arrivent à maîtriser une technologie, la donne mondiale change. Lorsque nous ne savions pas exploiter nos mines et que le 100% des investissements étaient étrangers, on pouvait exploiter les mines comme on le voulait. Aujourd'hui, il y a plus d'Africains qui sont en train d'exploiter les ressources minières du continent. Et bizarrement, au même moment, on a des OSC qui naissent et qui nous parlent de questions d'environnement. Mais je rappelle que l'Afrique ne pollue le monde que pour 3,8%. 3,8%.
D'accord.
Alors, on ne peut pas demander à l'Afrique qui gère les poumons du monde au même moment de laisser ses ressources, comme le dit mon ami du Congo, pour que d'autres viennent en tourisme chez nous et qu'on ne profite pas de nos ressources. Donc, alors, pour que ce narratif-là il change.
Je vous comprends très bien. Nous allons passer aux commentaires Facebook. Peut-être je vois Marc qui sourit un peu. Peut-être qu'il a quelques mots à dire en 20 secondes avant qu'on passe aux commentaires Facebook. Marc.
Je rigole tout simplement parce que ce ne sont pas les ONG qui posent le problème, ce sont les engagements que les pays prennent au niveau international. Parce que quand les pays ratifient certaines conventions internationales en matière de protection de l'environnement, c'est un engagement. Et nous ne faisons que rappeler à ces pays le respect des engagements.
D'accord. Alors, voici quelques commentaires de téléspectateurs de VO Afrique sur la page Facebook. Ben Benoît Kabé est à Kinshasa. Il nous dit « L'exploitation du pétrole et du gaz ne profite qu'à ceux qui exploitent et financent ce secteur, mais la RDC et ses dirigeants doivent prendre conscience pour profiter de leurs matières premières. » Mamadou Fally Loussek est à Dakar. Il nous dit « L'Afrique est le continent le moins pollueur de la planète. L'exploitation du pétrole et du gaz pollue certainement, mais pas plus que les centrales nucléaires de l'Europe. » Et puis Celestino Samwanda est à Luanda. Il dit « La RDC doit répondre à l'urgence de la lutte contre la pauvreté de ses citoyens en exploitant son pétrole. De quel droit les Occidentaux veulent-ils refuser à la RDC le droit d'exploiter son pétrole au profit de son peuple ?» C'est une question qu'il pose. Vous pouvez continuer à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de rester fidèle. Washington Forum qui revient après une courte pause.
Salut Ginny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous,
c'est vous,
c'est nous,
c'est vous et nous.
retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités à Kolwezi, ambassadeur Tosi Panupanu, expert en développement durable et finances climatiques, également négociateur de la RDC lors de la COP26 de Glasgow. À Ouagadougou, Innocent Belemtougri, PDG du cabinet Semika, spécialisé dans la promotion et le développement du secteur des mines, des carrières, du pétrole et de l'énergie en Afrique. Et à Libreville, Marc Ona Essangui, secrétaire exécutif de Brain Forest Gabon, lauréat du prix Goldman pour l'environnement. Alors Tosi, le développement du continent, est-ce qu'il doit forcément passer par l'exploitation de ces énergies fossiles? On a le Nigeria, premier producteur africain de brute, qui n'arrive pas à s'alimenter correctement en électricité. L'Angola, deuxième exportateur subsaharienne, en Afrique subsaharienne, alors que la moitié de la population vit avec moins de $2 par jour. Quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de tout cela, en tout cas pour les futurs producteurs, grands producteurs, si on peut le dire ainsi?
En tout cas, je peux m'inspirer des réponses qui ont été données tout à l'heure par Innocent et par Marc. Mm-hmm. La première, comme Innocent l'a dit, l'Afrique a besoin d'énergie. Cette énergie va l'aider à se développer, à réduire sa pauvreté. Et cette énergie doit être produite de la manière la moins chère possible. Une fois que l'Afrique aura 100% d'accès à l'électricité, elle pourra voir comment verdir son mix énergétique. Donc, si cet accès à l'énergie passe par le pétrole, eh ben, je pense que c'est une option que les pays africains peuvent exploiter. De plus, aujourd'hui, on se rend compte que, à cause de la crise russo-ukrainienne, il y a une forte demande de cette ressource en hydrocarbures. Et beaucoup de pays européens, pour ne plus dépendre de la Russie, réutilisent leur centrale à charbon qui émettent deux fois plus que l'utilisation du pétrole. Donc si effectivement les Africains peuvent aider certains États à se détourner de cette dépendance de pétrole russe en ayant un pétrole moins cher qui permet à ces pays africains d'avoir de l'argent dans leur trésor public pour pouvoir subvenir aux besoins des pays, ce serait quelque chose de bénéfique. Pour finir, ce que Marc a dit, il s'agit de gouvernance et il faut qu'il y ait de la transparence sur la manière dont ces ressources sont gérées. Et je pense que les pays africains ne sont pas réfractaires à une démarche qui soit plus transparente dans la manière dont ces ressources sont gérées et comment est-ce que les revenus venant de ces ressources sont redistribués.
Et justement, Marc, donc pour vous, c'est un problème de bonne gouvernance quand on parle de ces énormes potentialités contenues dans le sous-sol africain et le niveau de pauvreté, quand même, où se trouve l'équilibre?
Écoutez, il y a le terme malédiction des ressources naturelles qui est toujours accolé à l'Afrique. Ce n'est pas fortuit.
Est-ce qu'on est obligé d'être dans cette malédiction, justement?
Non, on n'est pas obligé. Nous sommes suffisamment responsables pour pouvoir profiter de nos ressources. Alors, hier, j'ai eu un débat avec des amis où l'Afrique était présentée comme étant le continent le plus doté en ressources naturelles. Mais malheureusement, c'est le seul continent, avec toutes ces ressources, qui n'arrive pas à devenir aussi puissant que des pays qui viennent chercher des ressources en Afrique le sont. Alors pourquoi? Première chose, on n'arrive pas à admettre la consultation publique dans les prises de décision. Le plus souvent, quand il y a polémique, comme celle que nous sommes en train de vivre pour le Congo RDC, c'est tout simplement parce que certaines autorités ont du mal à faire de la consultation publique un préalable pour que tout le monde adhère au projet. Le plus souvent, et c'est mon expérience, quand vous avez réussi à mettre autour de la table toutes les composantes, quelles que soient les divergences, on finit toujours par se comprendre. Mmh. Mais malheureusement, nous avons certains responsables qui estiment que une décision prise dans un bureau, elle suffit à engager un processus de signature de contrat, parfois des contrats qui sont des contrats léonins, des contrats secrets. Et je pense qu'aujourd'hui, pour terminer par là, il faut absolument que les paradigmes changent. Il faut absolument que, quelle que soit la nature de la population, il faudrait l'associer pour expliquer le bien fondé de tel ou tel projet d'intérêt général.
D'accord. Alors, Innocent, une autre inquiétude, hein, si une bonne partie du monde, notamment occidental, qui achète le brut africain, réussit sa transition énergétique et consomme moins de pétrole, cela ne va-t-il pas compromettre un peu l'avenir des secteurs pétroliers et gaziers, qui vont rester des secteurs rentables pour l'avenir, en tout cas pour l'Afrique?
Une chose est sûre, sans énergie, on ne peut pas avancer. Sans énergie, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de développement en tout court. Aujourd'hui, plus que l'Afrique est en train d'explorer l'ensemble de ses sources d'énergie, dont le fossile, qui est une richesse largement disponible sur le continent, les règles internationales changent et la totalité des investissements énergétiques sont redirigés vers les énergies renouvelables dites propres. C'est assez brusque, c'est assez dur et c'est un coup dur pour les pays africains en général et producteurs de pétrole en général. C'est une sanction qui ne dit pas son nom parce que ceux qui orientent les financements vers ces énergies propres et renouvelables s'y sont préparés. L'Afrique ne s'y est pas préparée, donc il faut permettre à l'Afrique d'aller à son rythme, d'exploiter la totalité de ses sources d'énergie et de se préparer à la transition énergétique, étant entendu que l'Afrique aujourd'hui est le poumon du monde et conserve bien ses forêts encore.
Le secteur privé africain, Innocent, le secteur privé africain a-t-il les moyens de prendre la relève en cas d'assèchement de ses financements rapidement?
Oui, nous pensons que de plus en plus les capitaines d'industrie africains sont en train de regarder du côté des ressources naturelles et sont en train de s'y investir. Et la relève, les ressources humaines en termes de montée en puissance de la connaissance de l'exploitation des ressources naturelles est en train de monter partout sur le continent. Ces deux dernières décennies, nous avons vu une multiplication des écoles, des grandes écoles de formation, des universités de formation dans la gestion de l'exploitation des ressources naturelles. Et cette cadence est en train de s'accélérer. D'accord. Ce n'est pas le moment pour l'Afrique de baisser les bras. Pendant que son secteur privé est en train de s'intéresser à ce domaine, pendant que on est en train de former de jeunes Africains pour prendre la relève pour le développement de ce secteur, d'arrêter tout financement pour des questions, je dirais, extérieures au continent.
D'accord. Tosi, vous aurez le
continent d'aller à son rythme.
D'accord.
Et de pouvoir contribuer à sa manière au développement mondial.
Alors toi aussi, pour terminer, quelle place pour les énergies renouvelables et fossiles dans cet objectif d'électrification du continent, sachant que l'Afrique ne consomme que 3% de l'électricité produite dans le monde? Quel équilibre?
Mais je pense que tout le monde doit s'inscrire dans la voie qui est la voie actuelle, c'est-à-dire une transition énergétique vers un verdissement du mix énergétique. Mais cela a un coût. Donc aussi longtemps que l'Afrique aura un accompagnement en termes de transfert de technologie, en termes de financement, en termes de renforcement de capacité, l'Afrique a énormément de potentiel en énergie renouvelable, en solaire, en hydroélectrique, en éolien, en géothermie, en biomasse ou en gaz, sera preneur. Je voulais juste terminer en corrigeant deux choses que Marc a dites. En RDC également, la loi sur la conservation permet de déclasser certaines aires et en reclasser d'autres. Il faut pour cela une exigence que l'État ait fini de donner 15% du territoire national à la conservation.
D'accord. Je suis malheureusement dans l'obligation de vous couper. Me fait signe que l'émission est terminée. Merci à vous trois. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce débat. Merci à toute l'équipe technique, à vous qui nous suivez à travers nos télépartenaires sur le continent et également sur Facebook. Continuez à discuter. Au revoir.